Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve dans ce début d'intersaison très mouvementé, même s'il y a une période de calme, on en parlera à la fin, bien pour une discussion autour de deux contrats et peut-être d'un thème aussi, celui de la loyauté, mais pas que ça. Pour ce faire avec moi, il arbore fièrement son maillot des Grizzlies, peut-être une franchise qui ne donne pas des no-trade clause à n'importe qui. C'est Tom, comment ça va?
Ça va, un petit peu moins heureux que Bradley Beal en ce moment, mais écoute, ça va, je tiens la corde.
Ouais, n'importe qui, je suis dans l'excès. C'est le début, on se chauffe. Et puis avec nous, Ilias qui... Est-ce que c'est pas le meilleur moment de l'intersaison, Ilias? La draft s'est terminée pour toi en tant que fan des Pistons. La draft s'est terminée. C'est la Summer League, la période des rêves. Est-ce que c'est pas le meilleur moment en ce moment?
Ajouter à cela, la période des rumeurs et des transferts. Moi, j'adore cette période, en fait. Elle nous vend tellement de rêves, tellement de papiers que, effectivement, c'est une bonne période. Mais en tout cas, ça faisait un moment que j'étais pas intervenu, les gars. Je suis très, très content de pouvoir, échanger avec vous aujourd'hui.
Bon, on est content de te recevoir. Et puis, d'un côté, c'est vrai que, alors, il y a des explications, mais c'est toujours la période où on le fait le plus d'écoute, hein, en été. Donc, ça prouve bien qu'il y a peut-être les longs voyages de vacances, mais on a déjà eu des retours d'auditeurs comme quoi c'est une période qui est un peu théorique, donc qui fait un peu notre beurre. Enfin, en tout cas, du coup, aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler de Bradley Beal, de Damien Lillard, mais aussi de cette question de la loyauté, des contrats, des Knicks, de certains contrats peut-être, et puis aussi du calme apparent. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis la dernière fois qu'on a enregistré en réalité. Donc, on va parler de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes où vous écoutez notre podcast. Et aussi, suivez bien notre Twitter. Parce que alors, peut-être que ça sera sorti au moment où vous allez écouter cette émission. Peut-être pas, on va mettre en place une période de recrutement. La dernière fois, ça nous a ramené des maîtres de la plume comme Ilias. Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe d'Dunk Hebdo, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner à ce niveau-là. J'en ai terminé. Petite pause et puis on s'envole du côté de Washington pour parler de Bradley Beal. Je vais avoir du mal à le placer, les gars. 5 ans, 251 millions de dollars pour Bradley Beal. Contrat max pour le joueur des Wizards, mais surtout, et ça, c'était un petit peu moins attendu, un trade kicker et une no-trade clause. Donc, Bradley Beal, pendant les 5 ans de son contrat, aura un droit de regard en cas de transfert. Tom, je vais commencer par toi, notre expert CBA. On s'attendait plus ou moins à ce contrat-là pour Bradley Beal, mais qu'il obtienne cette no-trade clause qui, je vais déjà commencer la liste, hein, dans l'histoire, n'avait été accordée qu'à, je cite, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, LeBron James, Dirk Nowitzki, David Robinson, Just Stockton, Dwayne Wade. Comment on réagit?
C'est très surprenant. C'est très surprenant. Après, je pense que c'est aussi une histoire de balance des pouvoirs et de levier. Et après, faut préciser que la no-trade clause de Bradley Beal, c'est pas une no-trade clause périodique, c'est une no-trade clause contractuelle, puisqu'il y a deux types de no-trade clause. On a les no-trade clause périodiques, c'est-à-dire quand, par exemple, vous avez re-signé avec les Bird Rights pour un an où on peut pas vous transférer. Quand vous venez de signer, par exemple, une extension au Supermax pendant la première année, vous ne pouvez pas être transféré. Ou, par exemple, vous prenez votre qualifying offer, on peut pas vous transférer dans une autre équipe sans avoir votre avis une fois que, enfin, si vous êtes dans votre année de qualifying offer et dans la dernière année de vos contrats rookie. Donc ça, c'est des no-trade clauses qui sont, on va dire, périodiques, qui, avec le temps, s'estompent. Bradley Beal, cette no-trade clause, elle dure pendant toute la durée de son contrat, qui est long, comme tu dis, et c'est ce et en fait, pour y être éligible, il faut avoir 8 ans d'expérience dans la ligue. Donc, en 2000, il entame sa 10e année. Et il faut avoir fait 4 saisons dans la même équipe pour y être éligible. Par exemple, quelqu'un comme Zach Lavine aurait pu prétendre à cette no-trade clause qu'il n'a pas eu. Mais, enfin, Bradley Beal, c'est ce qu'on appelle avoir la franchise à ses pieds, concrètement. Hein. Là, le mec, il a la franchise à ses pieds et, OK, il veut être Monsieur Wizard, mais je trouve que c'est vraiment montrer que, à quel point ce joueur-là a plus d'importance sur la franchise en elle-même pour les personnes qui lui ont donné ce contrat.
Ted Leonis, on va en reparler, le propriétaire des Wizards, a dit, je cite, « Je ne vois pas, donc, cette no-trade clause et la demande de Bradley Beal qui a été acceptée, je ne vois pas ça comme un point de leverage, un point de discussion, enfin, mais comme un point qui met en valeur notre partenariat. » Ilias, t'en penses quoi de ce contrat, non seulement Max, mais vraiment, ça peut paraître comme un point de détail, mais c'est on n'avait pas vu ça en NBA, une no-trade clause depuis, la dernière exemple, c'était 2016-2017, donc Melo. Donc ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas vu ça. On n'aurait pas parié que ça allait être Bradley Beal, l'heureux élu.
Bah, vous avez usé d'un terme qui est quand même fort, qui est celui d'avoir toute une franchise au pied d'un même joueur. Un joueur qui est certes bourré de qualité, mais que nous, par exemple, on arrive pour certains à très difficilement caler dans notre DH20. En tout cas, il peut rentrer, il peut sortir. Mais en tout cas, la dernière saison, elle nous fait peut-être pas penser qu'il fait partie forcément du gratin de la NBA, en tout cas en ce qui concerne les qualités individuelles des joueurs qu'on classe. Après, moi, j'ai envie d'inverser un petit peu, la question et plus de penser de manière globale par rapport à la situation des Wizards. Parce que en re-signant Bradley Beal, tu t'assures un certain niveau de plancher qui fait que tu pourras pas, excepté blessure, devenir une lottery team. Disons qu'il a raté pas mal de matchs la saison dernière et que vu le matériel qu'il y avait autour de lui, t'avais pas forcément non plus de quoi jouer les premiers rôles pour le first pick. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment, quand t'es Washington, tu vas commencer à envisager en fait ta transformation, ta reconstruction. Parce que en partant du principe que tu signes Beal, c'est que tu lui vends, même si on sait que c'est pas forcément l'élément déclencheur de ce contrat, tu lui vends peut-être un projet, mais après, il y a peut-être aussi des choses qu'on arrive, nous, de notre côté, à ne pas forcément prendre en considération et qui restent peut-être dans le cercle des Wizards avec Bradley Beal, qui est de dire que, écoute, tu re-signes pour l'instant, on va avoir besoin peut-être à un certain moment d'avoir des assets et toi peut-être de remporter un titre, donc t'auras ton droit de regard, mais il faut qu'on puisse aussi avoir quelque chose en échange. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme vous l'avez dit, non seulement il a la franchise à ses pieds, mais c'est en plus lui qui va pouvoir dicter si un jour il y a des négociations, dans quel sens elles iront.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est problématique à la trade clause.
Et totalement, si on veut rentrer dans les détails, c'est-à-dire que dans 2 ans et demi, dans 3 ans, si Bradley Beal arrive à la table des négociations et veut se faire trader, il a quasiment le pouvoir, s'il accepte, s'il prend ce pouvoir-là, de décider de sa destination, en fait. C'est ça de ce dont on parle. Et c'est non seulement de sa destination, et par extension, presque du package qu'on pourrait échanger, parce que vous voyez bien ce qui se passe avec Kevin Durant actuel, qui n'a pas de no-trade clause, lui. Quand on voit ce que souhaitent recevoir les Nets et ce que sont prêtes à donner certaines équipes, on voit bien qu'il y a un décalage. Bah, si Kevin Durant avait une no-trade clause, il aurait parfaitement pu dire à un moment, si les Nets acceptaient un des packages, non, je ne veux pas que ce joueur X soit retiré de l'équipe B où je veux aller, eh bien, refaites un nouveau package. Donc, c'est un pouvoir considérable. Et c'est vrai, peut-être, Tom, si il y a sa raison, si on regarde ça du côté des Wizards, moi, je pense qu'il faut regarder ça du côté du proprio qui, franchement, je me suis plongé dans la fanbase des Wizards et on voit bien que c'est un proprio Ted Leonis qui a donc une franchise de NHL, sport dans lequel je n'ai absolument aucune connaissance, mais pour avoir lu dessus, eh bien, c'est un mec qui a une franchise NFL et qui a un joueur star depuis 2004, joueur qui a toujours signé chez eux. Alors, le joueur en question est un joueur majeur du championnat de NHL et ils ont déjà gagné un titre. Donc, je pense que la comparaison peut s'arrêter là, mais ça a l'air d'être un proprio qui veut garder sa star, quand bien même sa star ne fait pas partie du gratin NBA, qui veut la garder sur le long terme et qui souhaite de la stabilité.
Oui, bah au détriment peut-être de certains résultats sportifs. Peut-être que c'est vraiment le côté loyauté envers les hommes, enfin puisque voilà, il y a pas très longtemps, John Wall lui signait aussi un contrat sur le Supermax avec cette équipe de Washington qui était lui avant son transfert, du coup, avant ses multiples blessures, c'était un peu lui Monsieur Wizards quoi. Donc oui, peut-être que c'est un attachant
et autoporteur signe aussi un contrat max.
Oui, match matché. Donc du coup, oui, tu vois, c'est tout ça, ce sont des choses qui, voilà, peut-être que c'est encore une fois, hein, peut-être c'est le côté attrait à l'humain et la stabilité pour quelqu'un qui est une figure, vraiment le côté figure de la franchise reconnaissable. Mais après, entre guillemets, pour l'instant, tout va bien. Mais quand ça ira mal, quand finalement une des deux parties pourra prendre congé, ben ça va être beaucoup plus difficile parce qu'aujourd'hui, Washington a pu se relever de John Wall tout simplement parce qu'il y a eu des opportunités de le transférer. Et là où c'est problématique dans le cas de transfert de Bradley Beal, non seulement il a la vision sur le package que l'équipe peut envoyer et du coup, certaines équipes qui peuvent être utilisées pour faire levier, ben dans ce cadre-là, ça pourrait être beaucoup plus difficile. Mais après, il a aussi une trade kicker, c'est-à-dire que quand tu vas le transférer dans la destination où il veut aller, tu devras, toi, de ton côté, lui payer 15% en plus du salaire, tu vois. C'est-à-dire que tu transfères le salaire, mais tu lui verses les 15% supplémentaires.
C'est le solde de tout compte.
C'est pire qu'un boulet, là. Ouais, c'est le solde de tout compte.
Si on se détache un peu des considérations contractuelles, les gars, c'est très intéressant parce que Bradley Beal semble, et c'est un truc sur lequel on avait beaucoup parlé une fois et certains auditeurs n'étaient pas d'accord avec nous, mais pas la mentalité de Bradley Beal, mais qui semble, tu l'as dit, Tom, vouloir être Monsieur Wizards. Alors Elias, est-ce que c'est pas un truc qu'on peut défendre d'un côté? C'est-à-dire qu'on est tous dans une NBA, et nous les premiers, où on dit joueur, choix rationnel, maximisation, en gros, ton équipe est pas assez bonne, va chercher le titre. Moi, j'ai fait mes petits calculs d'apothicaire. Hein. Bradley Beal, s'il va au bout de ce contrat-là, 5 ans de plus chez les Wizards, au nombre de matchs joués dans la carrière du côté des Wizards, il est déjà sur le podium, 645, petite moyenne de 70 matchs par an. Si on multiplie ça par 5, il doit avoir à quelques matchs du record de franchise. Au niveau des points, il est à 1320 points, c'est une grosse saison pour lui. S'il reste les 5 ans, il devrait l'exploser et dépasser les 20 000 points avec une seule franchise, ce qui est notamment dans l'histoire de l'NBA, c'est pas beaucoup fait. Hein. Au niveau des minutes, il devrait peut-être un peu forcer, mais ça pourrait être un joueur qui recordman du nombre de points de sa franchise, du nombre de matchs. C'est le meilleur joueur, indéniablement, s'il fait ça des Wizards sur les 40 dernières années, en fait. Est-ce que ça a pas du poids, ça aussi?
Alors, moi, enfin, pour un joueur de basket qui ambitionne de gagner un titre un jour, j'ai quand même du mal à imaginer que les milestones dans une franchise comme les Wizards, ce soit un objectif ultime. J'ai du mal à y croire parce que il a prétendu, en tout cas avant sa récente prolongation, que l'idée c'était de gagner. On a même cru à un certain moment, en tout cas moi j'y ai cru, qu'on allait avoir un potentiel départ ou une signature dans une autre franchise pour finalement rester à Washington. Dans un monde idéal, être Monsieur Wizards, Monsieur Washington, Monsieur Capital, je veux bien, mais j'ai quand même du mal à croire que ça puisse animer un joueur NBA. Pour moi, l'ambition ultime restera de gagner un titre NBA. Je pense que même lui, dans un accomplissement purement personnel, soulever un trophée Larry O'Brien, ça aura quand même peut-être plus de poids émotionnel et même sur le plan historique que d'être à tant de points ou de tant de passes à Washington. Je pense que c'est plus une manière d'idéaliser et justement de romancer l'aspect dont on va parler après, qu'on appelle la fidélité. Mais moi, je pense qu'il y a un aspect qu'on a toujours tendance à oublier, alors que pourtant c'est le cas, c'est une question de zéro et de chiffres. Est-ce que finalement, Bradley Beal, je le juge absolument pas et je peux considérer ça comme purement humain, comme réaction. Est-ce que finalement il ne reste pas à Washington tout simplement parce qu'une autre équipe n'est pas en mesure de lui proposer autant d'argent que Washington? C'est aussi simple que ça en fait.
C'est vrai qu'il faut rappeler que Bradley Beal, dans sa carrière, c'est quand même un joueur qui, à titre de comparaison, hein, si on parle, je parle sous le contrôle du spécialiste français du CBA qui est Tom, Bradley Beal a donc signé pour 251. Une autre franchise n'aurait pu lui offrir que 4 ans et 186. Qu'en termes contractuels, on est quand même sur une grosse différence. Mais Tom, est-ce que j'essaye de défendre le Bradley Beal dans ce débat-là? Est-ce que cette idée d'être le plus grand joueur des Wizards depuis, en gros, l'équipe qui a gagné le titre à la fin des années 70, qui avait de Hall of Famer, hein. J'ai bouquiné les Baltimore Bullets et les Wizards cette année. Cet après-midi, donc je suis obligé de le placer, Tom. C'est pour ça. Mais bon, il est peut-être pas MVP comme certains joueurs de cette époque, mais il aura quand même une gloire s'il fait ça. Donc est-ce que ça peut pas être une démotivation pour lui? Ou alors, comme le dit Elias, c'est peut-être un moyen de vendre la prolongation à court terme avant d'activer la no-trade clause et de partir à moyen, voire à long terme.
Ben, tu vois, il y avait un article de Fred Katz, qui à l'époque, qui est un beat writer de The Athletics, qui suit maintenant les Knicks et qui était, du coup, qui suivait le Thunder et qui a suivi les Wizards pendant, je crois, 2 saisons. Et en fait, il avait fait une interview de Bradley Beal pour le retrait du maillot de Dirk. Parce qu'en fait, sur le parquet de Dallas, il y a un motif de Dirk sur le parquet. Et Bradley Beal, quand on lui parlait de sa legacy, quand il a abordé le terme legacy en fait dans cette interview avec Bradley Beal, et Bradley Beal lui a sorti que la legacy c'est ça, c'est d'avoir par exemple, c'est Dirk, c'est d'avoir par exemple ton, pas ton hologramme, mais d'être visible sur le parquet en fait. Pour lui, il a abordé ça un peu comme legacy. Donc du coup, peut-être que lui n'évalue pas. Ok, il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté marqueur à un endroit, c'est-à-dire qu'il préfère être roi quelque part que prince ailleurs.
Je peux le comprendre. Après Elias, c'est vrai que...
Ouais, moi, j'ai juste un petit truc à ajouter. Le problème dans le passage qui est bon de Bradley Beal à Washington, c'est que on va raisonner peut-être finalement que de manière chiffrée, que ce soit au niveau des dollars ou au niveau des statistiques. Qu'est-ce qui va manquer du passage de Bradley Beal, en tout cas jusque-là, à Washington? C'est des pics de performance. Je te donne un exemple très simple d'un joueur qui avait signé un très très gros contrat au milieu des années 2000 à Washington. Un joueur comme Gilbert Arenas, c'est quelqu'un qui finalement aura eu moins de longévité que Bradley Beal à l'échelle des Wizards, mais c'est peut-être quelqu'un qui aura beaucoup plus impacté l'histoire de Washington que ne l'a fait Bradley Beal. Parce qu'il y a eu des performances en play-off, il y a eu des podiums MVP, il y a eu des choses qui nous permettent au moins d'en ressortir quelque chose qui ne va pas uniquement être chiffré. Qu'est-ce que finalement Bradley Beal a pu proposer aussi au public, aux fans de Washington et même à la NBA en général, au-delà de ses extensions et au-delà, on va dire, de sa capacité à effectivement scorer, mais des scoreurs, on en a eu beaucoup dans l'histoire de la Ligue. Mais moi, je suis pas sûr finalement que l'effet escompté, ou en tout cas celui qu'il aimerait laisser derrière lui, soit finalement si impactant que ça, même à l'échelle de Washington.
Est-ce que c'est pas aussi parce que si on poursuit... Mais est-ce que c'est pas aussi parce que si tu vois, tu compares avec un joueur comme Arenas, c'est un meilleur joueur, Arenas? En fait, concrètement, c'est un meilleur joueur que Bradley Beal. Donc, du coup, il y a ça aussi. Si on peut un peu parler des Wizards et de Bradley Beal, c'est là où c'est un débat intéressant pour nous, parce que c'est un mariage entre un joueur qui signe son 3e contrat dans son équipe qu'il a drafté malgré le manque de performance. Bradley Beal n'a jamais pas gagné de finale de conf, n'est jamais allé en finale de conf, pardon. Jamais gagné 50 matchs, 4 saisons dans le positif. C'est donc un joueur drafté en 2012, ça fait quand même beaucoup. Et de l'autre, une franchise qui est prête à accepter s'inscrire dans le long terme avec ce joueur-là, alors qu'il n'y a pas des résultats. C'est un mariage qui, je pense qu'on a du mal à, dont on a du mal à parler parce qu'il est assez unique en NBA. C'est rare d'avoir les deux composantes.
Ça ressemble à, t'as l'impression que c'est un peu t'as l'impression en fait que c'est un peu du perdant, c'est-à-dire que c'est un peu genre on reste ensemble parce qu'il y a les enfants, tu vois.
Très bien imagé, Tom. Je suis jaloux, c'est le genre d'intervention que j'aurais aimé placer. Bien, vraiment bien joué.
Non mais c'est vrai, tu vois, c'est vrai, enfin, il y a un peu ce côté, et si on peut aller par extension avec C'est là où je trouve que ils sont un peu mis dans le même, comment dire, les deux joueurs sont un peu mis sur la même base actuellement, Damien Lillard et Bradley Beal. Alors pour moi, c'est deux sujets qui sont complètement différents. Les Blazers ont payé la taxe. Ted Leonistom, il a payé une fois la taxe depuis qu'il est arrivé. Et clairement, quand on lui dit, il faudra peut-être payer la taxe, ouais, mais bon, on verra. On verra le projet. Donc, est-ce que, si je te relance sur ça, Elias, est-ce que pour toi, on peut parler de ces deux joueurs-là en dans les mêmes termes? Et du coup, on ouvre notre grand débat sur la loyauté, parce que je trouve ça incroyable. Je te lance 15 questions, tu choisis celle que tu veux. Yes. Du coup, actuellement, on en parlait avant de démarrer. Bradley Beal et Damien Lillard sont accusés d'être loyaux, mais d'un côté, c'est facile parce qu'ils prennent toujours la plus grosse extension. Ce à quoi je me suis fait la réflexion, donc quand tu prends l'argent et que t'es loyal, c'est pas bon. Quand tu changes d'équipe parce que les mecs sont pas bons, t'es un traître. Et quand tu restes parce que l'équipe est bonne, c'est facile d'être loyal. Du coup, c'est un peu le jeu du perdant. Quand est-ce que tu gagnes?
Ouais, c'est ça. En fait, le problème, là où il va peut-être y avoir une scission entre les extensions de Beal et de Lillard, c'est que Lillard, lui, il affiche clairement son envie de gagner, ou en tout cas, il essaye vraiment de porter sa voix vraiment de manière publique pour que ce soit entendu. D'ailleurs, l'année dernière, on sait qu'il y a eu pas mal de remue-ménage au sein des Blazers, notamment avec le départ de Stotts, qui ont pu aller justement dans ce sens-là. Mais il vient de prolonger son contrat de 2 ans, donc pour 122 millions de dollars, alors qu'il était déjà sur un contrat en cours de 5 ans sur 270 millions, ce qui veut donc dire qu'il touchera approximativement plus de 60 millions à l'âge de 37 ans. Honnêtement, je ne sais pas si c'est sa fidélité qui est récompensée, mais j'ai du mal à imaginer les Blazers, en tout cas, pour penser encore de manière collective, capables de répondre favorablement en fait à ses velléités salariales et à son envie de gagner un titre à Portland. Parce que là, en fait, il va absorber une moitié de cap space à un âge où certains envisagent des pay cuts pour aller tenter de gratter une bague ailleurs, tu vois. Et après, il y a autre chose qui me dérange, c'est justement l'aspect, entre guillemets, fidélité. C'est que Lillard, il vient d'avoir cette déclaration qui a suivi tout de suite après sa prolongation. Il a dit, je cite, pour paraphraser, « Il manque de la passion et de la fierté dans notre ligue, pas seulement pour le nom inscrit à l'arrière du maillot, mais aussi pour le nom qui se trouve à l'avant. »
Elle est affreuse.
Et le nombre de zéros après la virgule.
On va y venir, les gars. Mais ce que je hais, en fait, dans ce genre de déclaration, et encore plus quand elles ne sont pas, en fait, au service de la cohérence, tu peux pas, en fait, lancer une telle déclaration et quelques jours avant, poster une story sur tes réseaux sociaux d'un montage de Kevin Durant à tes côtés avec un maillot des Blazers. En gros, c'est « je suis fidèle, mais si les infidèles veulent se joindre à moi pour fidéliser mes objectifs, venez. Il y a absolument aucun problème. Je vous accueille même si vos principes ne sont pas les miens, tu vois. » Et c'est ce que je hais, en fait. Je sais que on est un podcast qui est assez strict, qui essaye... là, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à prendre du recul et essayer d'insister sur des points qui touchent un peu à la fierté, à l'honneur, à la véracité de certains propos. Mais je déteste ce genre de propos. Et honnêtement, je prétends pas, en fait, lire dans le fort intérieur des gens, mais ceux qui croient véritablement en la fidélité d'un Lillard ou d'un Beal, est-ce qu'il n'existe pas, selon eux, même une infime possibilité que toutes ces extensions ne soient dues au fait que partir nécessiterait de délaisser plusieurs millions de dollars sur la table? Voilà, du coup, moi, je vous laisse avec cette question.
Je pense qu'on critique la posture. Vas-y, Tom.
Non, vas-y.
Tu vois, moi je pense qu'on est dans une critique de la posture par rapport à ces joueurs-là. Et je suis là où je suis d'accord avec Ilia, c'est vraiment qu'on est dans une logique de mise en avant de principes qui sont pas respectés. Moi ça me fait beaucoup penser, les gars, et je vais pouvoir citer un podcast que j'adore. J'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Autour du Feu sur le Koh-Lanta, en fait.
Sur Koh-Lanta.
C'est un podcast que j'adore. Sur Koh-Lanta qui est trop bien, où ils mettent beaucoup en avant
ça y est.
Je suis trop content. Et s'il y a quelqu'un de chez eux qui nous écoute, j'adore votre émission. Vraiment, je l'écoute tout le temps. C'est un des rares podcasts. Je regarde quand il sort, je refresh, tu vois, je rafraîchis mon appli podcast. Il y en a très peu pour lesquels je fais ça. Bref. Et ils mettent beaucoup en avant l'idée dans Koh-Lanta, beaucoup des joueurs parlent constamment de mes principes, alors qu'en fait quand tu analyses le comportement du mec, il y a absolument aucun principe en fait. C'est-à-dire qu'il balance tout le monde mais il y a toujours cette mise en avant, mon honneur, mes principes. Et il y a un peu de ça, je trouve, dans les postures de certains joueurs NBA, c'est-à-dire que mes principes. Et comme l'a dit Ilias, par contre, si Kevin Durant, lui qui se fait lyncher de manière quotidienne sur les réseaux sociaux, vient,
le symbole même devenu vraiment de l'infidélité, c'est devenu le symbole de l'infidélité, Kevin Durant. Mais si demain il vient aux Blazers, crois-moi, il va...
Il y a un peu de ça. Puis, je pense qu'on a, encore une fois, moi, je dis toujours que dans cette représentation des stars NBA, je trouve que le public a sa part de responsabilité. Je pense qu'on l'a aussi dans la manière dont on va traiter les joueurs. Et je trouve qu'on en arrive à un stade où, quelle que soit la situation, à part si tu t'appelles Dirk Nowitzki et que t'es mis sur un piédestal, t'es toujours, quand on parle de Kobe, ah ouais, savez-vous que Kobe l'a demandé? Oui, tout le monde sait que Kobe l'a demandé des trades. Voilà, ça, tout le monde sait que Kobe a demandé des trades. Enfin, c'est un peu une situation où personne n'est gagnant. Tom, je te laisse enchaîner.
Alors, juste avant de donner la parole à Tom, je vais intervenir sur un petit point. C'est que Dirk, par exemple, c'est, même si je trouve que, notamment en France, on a tendance à beaucoup romancer la carrière de Dirk Nowitzki, il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que Dirk, au-delà d'être resté dans la même franchise pendant toutes ces années, c'est quelqu'un qui, au moment de ses extensions, au-delà de s'asseoir avec Cuban pour discuter chiffres et son contrat personnel, c'est quelqu'un qui, par exemple, acceptait des pay cuts pour pouvoir signer d'autres joueurs. Il l'a fait,
non.
Ah, l'histoire des pay cuts. Ah, Tom, vas-y, Tom.
C'est peut-être plus compliqué moment, que ça, cher Tom, mais il l'a fait.
Oui, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'a pas pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il a pris moins que ce que le maximum qui pouvait lui être accordé, qu'il pouvait prendre en termes d'argent pour pouvoir donner un peu de flexibilité aux propriétaires pour signer d'autres joueurs. Deux choses par rapport à ça, à ce point-là simplement sur Dirk. Allez voir les career earnings et regardez où se situe Dirk Nowitzki. Et deuxième chose, la personne qui a été signée parce qu'il a fait ce pay cut-là, c'est Chandler Parsons. Voilà, tout simplement. Donc, ok, grand seigneur, mais il faut avoir deux choses-là en tête aussi. Oui, certes, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui, certes.
Il ne peut pas faire les pay cuts et faire le GM.
Oui, mais il faut avoir ces choses-là en tête aussi, tu vois. Parce que c'est pas parce que toi tu laisses entre guillemets de l'argent que ce sera un bon usage qui en sera fait. Enfin bon.
Non, mais justement, on parle de symbolique, Tom. C'est-à-dire, peu importe les répercussions, que les choix ensuite de la franchise et du GM aient été pertinents, je pense pas que ce soit ça le sujet. Parce qu'il y en a qui, en fait, veulent gagner, comme Bill et comme Lillard, mais qui vont pas consentir les efforts pour donner au moins la possibilité à leur GM de le faire. Elle est là, la nuance.
Ok. Oui, je comprends bien cette nuance-là, mais après, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qui s'est passé avec les différents CBA qui sont sortis au travers des années, c'est que aujourd'hui, la NBA, pour permettre aux équipes de garder leurs joueurs, ils ont mis une emphase vraiment sur l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de gagner tes meilleurs joueurs avec le CBA, qui te permet de garder tes meilleurs joueurs? C'est l'argent. Et on se plaignait, les petites franchises se plaignaient que oui, nos joueurs partent ailleurs, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Ben, pour entre guillemets, corriger cet effet-là, ils ont dit, ok, ben, vous allez pouvoir donner plus d'argent à vos joueurs pour qu'ils restent. Le CBA fonctionne. Donc, en gros, tu vois, de ce côté-là, le CBA fonctionne. Donc, ça a été une action corrective qui fonctionne. Sauf dans certains cas où les joueurs décident de partir. Ou encore, maintenant, tu n'as quasiment plus de joueurs qui partent contre rien. Et c'est ça aussi, puisque on a souvent le côté loyauté. Quand tu signes un contrat, il faut aller jusqu'au bout. Par contre, si le joueur part contre rien, on n'est pas content à la fin de son contrat.
Après, je pense qu'on a peut-être tendance aussi à idéaliser un petit peu trop les contextes. En fait, on a des joueurs qui ont peut-être fait de l'argent une priorité, et personnellement, j'ai absolument rien contre. Dès l'instant où, évidemment, cette volonté va en cohérence, on va dire, avec leurs ambitions et leurs propos. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Le souci, en fait, aussi, de ces prolongations, c'est que si l'idée, c'est de toujours gagner un titre, bah, l'urgence, elle se fait encore plus grandissante pour des joueurs comme eux, parce qu'en fait, avec les années qui vont passer, un Lillard, par exemple, il va inévitablement laisser sa place dans le DH10, voire dans le DH20, à d'autres joueurs. Et on sait que il est quasiment inenvisageable d'avoir des ambitions de titre sans un difference maker de premier ordre. Et maintenant, moi, c'est plus maintenant ce que vont devenir ces joueurs qui m'interpellent.
Mais sur ça, je renvoie un petit peu la balle et j'ai deux questions. Première, et je vais du coup rester sur l'aspect joueur, est-ce que ça va pas créer un précédent ce qu'a fait Bradley Beal, les gars ? Alors, tous les joueurs ne seront pas éligibles à l'acquisition de la no-trade clause, mais est-ce que ça ne va pas créer un précédent de joueurs qui vont se dire, attendez, mais Bradley Beal l'a demandé, je suis un meilleur joueur que Bradley Beal, pourquoi je n'y aurais pas droit ? Moi, je me méfie beaucoup d'histoires de précédents comme ça parce que les Wizards, sans vouloir le faire, et peut-être dans une logique qui, encore une fois, ça sera ma deuxième question, pourquoi l'avoir donné au final, après tout ce qu'on a dit, peut-être dans une logique tout simplement de montrer leur attachement à Bradley Beal, lui ont donné ça, mais est-ce que ça ne va pas créer un précédent ? Et si ça le fait, est-ce que là, on n'atteint pas le stade ultime du player empowerment, de la prise de pouvoir des joueurs ? Est-ce qu'avoir un tel pouvoir de décision sur ta possible destination en cas de trade, on ne peut pas aller plus loin. Je veux dire, ils l'avaient déjà tacitement, là, ils l'ont contractuellement.
Bah, oui, ça peut créer un précédent, mais après, tu vois, quand tu prends l'époque, par exemple, le dernier joueur à en avoir une et à l'avoir utilisé, c'était Carmelo Anthony dans le cadre de son transfert à OKC, par exemple. Mais au final, entre ce moment-là et le contrat de Bradley Beal, il y a quand même eu Damien Lillard qui aurait pu en avoir une, il n'a pas eu. Cet été, il y a Zach LaVine qui aurait pu en avoir une, il n'a pas eu. Si tu prends des gars, par exemple, comme Steph Curry, il aurait pu en avoir une. Klay Thompson, il aurait pu en avoir une, il n'a pas eu. Donc, tu vois, il y a quand même eu, entre la dernière et celle-ci, il y a quand même eu un certain temps. Je pense que c'est vraiment très contextuel, en fait. Je pense que c'est vraiment très contextuel et le fait que enfin, par rapport, c'est-à-dire que pour ce que le joueur représentait du coup pour la franchise et ce que lui voulait pour lui, ça matchait du coup. Au final, tu te dis si, pour Ted Leonsis, comme tu l'as dit, si c'était signer Bradley Beal sur ce contrat et lui donner la no-trade clause et ne pas avoir Bradley Beal, il préfère avoir Bradley Beal dans ce package-là que de ne pas l'avoir par rapport à lui, ses valeurs, tu vois.
Ça, ce que je peux comprendre, mais alors, d'où ma deuxième question, après tout ce qu'on a dit, pourquoi le faire du côté des Wizards ? Parce que là où Tom cite les joueurs qui ont pu prétendre à ça, c'est quand même quand on regarde les premiers échos qu'on a, ça a surpris beaucoup de monde parce que, comment dire, c'est un peu comme une loi que tu ressors un texte de loi que personne ne connaissait, tu le ressors la no-trade clause. Enfin, pour nous, c'était dans les livres d'histoire, c'était dans les vieux grimoires, ça n'existait plus. Bradley Beal y a droit. Pourquoi, si jamais, parce que ça a été demandé par Bradley Beal, je pense pas que d'eux-mêmes les Wizards aient proposé. Ilias, pourquoi tu dis oui si t'es les Wizards alors que tu leur offres déjà le contrat maximum pour lui, voire le trade kicker? Pourquoi cette cerise-là?
Parce que peut-être que en étudiant un passé récent et peut-être une capacité à pas véritablement se projeter sur l'avenir, t'as tendance en fait à mettre un peu tous tes œufs dans le même panier et miser sur ce cheval-là. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait. Mais après, quelles sont les perspectives des Wizards ? Moi, pour moi, ils sont dans une posture un peu similaire à celle de mes Pistons il y a quelques années, où en fait on refusait catégoriquement en fait de jouer la reconstruction, c'est-à-dire de se séparer de nos meilleurs joueurs. Et par exemple, au moment où on fait Blake Griffin, Moi, je commençais déjà à me poser des questions sur la capacité, en fait, à tout démolir pour mieux reconstruire, à essayer de faire quelques pas en arrière pour mieux repartir de l'avant. Et j'ai pas l'impression, en fait, que le proprio, parce que je pense que c'est aussi une question, les choix de la franchise, du GM, et même des joueurs, enfin, ou en tout cas de la manière dont tout ça est géré, dépend souvent finalement d'un proprio. On sait, voilà, à quel point des personnalités comme Sarver peuvent avoir aussi un impact plus ou moins négatif sur leur franchise. Et je pense que nous, on a aussi omis cette facette-là. Peut-être que la volonté absolue et ultime du proprio, c'est de garder un joueur comme Bradley Beal, d'en faire sa tête d'affiche et voilà, de continuer à être, on va dire, dans une espèce de ventre mou. Mais honnêtement, j'arrive pas à voir, en fait, quelle est la cohérence autant sur la projection que tu vas te faire de ta franchise et surtout sur la capacité à faire quelque chose de manière immédiate. Est-ce que les Wizards actuels, ils vont nous permettre, je sais pas moi, ne serait-ce que d'accéder à une demi de conf? Je suis pas sûr.
Puis vous voyez, si je peux me permettre, là où j'ai du mal, alors je vous entends et c'est vrai, peut-être que, alors moi ça me paraîtrait extrêmement surprenant, mais peut-être que Bradley Beal a fait de la no trade clause bien une espèce de condition sine qua non à sa reconduction et à sa son extension, ce qui me paraîtrait dingue, parce que si c'est le cas,
c'est lunaire.
Moi, pour moi, c'est un motif, c'est lunaire. Si c'est ça, moi, c'est un motif, on peut se séparer de toi, parce que tu demandes un truc de super Hall of Famer. Passons. Là où je ne comprends pas, c'est que si du coup, tu penses que, comme le dit le propriétaire Taylor Lewinis, que tu as cette relation particulière avec Bradley Beal, que c'est un joueur qui est arrivé chez toi à 19 ans, qu'il a grandi à Washington, c'est un peu sa deuxième maison, voire sa maison, qui veut devenir une icône de la franchise des Wizards. Pourquoi tu penses pas que dans 2 ou 3 ans, si jamais l'histoire venait à dérailler, tu n'es pas en capacité de te mettre d'accord avec ce joueur-là? Pourquoi tu te mets ce mécanisme contractuel qui t'oblige à lui donner un peu de pouvoir? C'est là, moi, c'est juste ce point-là qui me paraît illogique. Si tu penses que tu peux réussir à être en bon terme avec ce joueur-là à moyen, à long terme, pourquoi tu t'obliges à faire ça? Là où pour Bradley Beal, je peux comprendre, c'est de la protection. Mais la franchise, moi, j'ai du mal à comprendre. On a beaucoup parlé, les gars. Est-ce qu'il y avait un truc que vous avez à rajouter sur ce dossier?
Ben, il y a peut-être un dernier aspect que Tom avait régulièrement rappelé quand on parlait déjà des précédentes extensions de Bradley Beal, comme quoi ça commence déjà à remonter. Et ça ressemble aussi à un sujet un peu redondant. Mais il parlait, en fait, de l'aspect aussi... stabilité familiale. C'est peut-être quelque chose finalement qui compte pour Bradley Beal, et que si un jour, en fait, il devait être tradé, avoir en fait toujours le contrôle sur cet aspect qui fait qu'il reste actuellement à Washington. C'est-à-dire que, d'accord, je veux bien être transféré, mais je veux avoir un droit de regard et de décision sur l'endroit où j'atterrirai. Et peut-être que c'est même pas forcément lié à aux ambitions de la franchise dans laquelle je vais aller, mais uniquement au cadre de vie qui pourrait m'être proposé là où j'irai.
Mais du coup, pour moi, ça ne répond pas à pourquoi tu penses que tu ne seras pas capable de faire ça comme un accord avec les Wizards dans 3 ans, en fait.
Peut-être que le proprio peut changer après, on donne vraiment on essaie vraiment de trouver des choses qui pourraient expliquer, hein. Parce que nous, on comprend pas.
On comprend pas. On donne vraiment des choses
qui pourraient essayer d'expliquer, tu vois. Mais après,
il y a un an qu'on n'a pas cité là-dedans. Oui, vas-y, Tom.
Il y a un an qu'on n'a pas cité là-dedans. Le fameux Mark, MB.
MB. Mark Bottelstein. Le négociateur des stars.
Voilà.
L'agent qui a fait signer ce contrat, qui, on avait cité son nom il y a quelques années dans le podcast, faites une petite recherche, regardez ses clients et je vais demander ses honoraires parce que je pense qu'il pourrait me trouver une bonne place très, très grassement payée à pas faire grand chose, je pense. On va enchaîner, les gars, parce que c'était censé épisode court et tout. On en est déjà à plus de 30 minutes sur Bradley Beal et un petit peu de Damien Lillard. On s'était promis de parler d'Enix. On va donc parler un peu d'Enix et de cette signature de Jalen Brunson, 4 ans, 104 millions. Je vais commencer avec toi, Tom, parce qu'en fait, Tom nous a dit, je comprends, mais ça fait quand même beaucoup d'efforts pour Jalen Brunson. Tom, vas-y.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, Jalen Brunson qui est récupéré, donc pour l'instant, on ne sait pas si ce sera soit via le cap space, soit via un sign and trade, puisqu'il n'a pas encore signé, donc les détails ne sont pas encore officiels. et que New York s'est donné la possibilité, notamment en montant un trade avec les Pistons, de pouvoir faire les deux. Donc là, ce qui va faire la différence, c'est quel type d'assets ils pourront extraire de chez les Mavs qui pourrait rendre légitime un signing trade pour aider les Mavericks, ou s'ils décident de le signer directement avec le cap space, et comme ça les Mavs perdent Brunson pour rien. Le truc avec Brunson, c'est que au final, tu vois, c'est un bon titulaire NBA. Si tu prends uniquement le contrat qu'il signe, si on prend le, je pense qu'il faut arrêter de raisonner uniquement en montant brut. En gros, c'est quelqu'un qui signe pour à peu près 20% du salary cap. Pour un joueur qui a une telle production, parce que il faut pas oublier que Jalen Brunson, on a tendance à résumer Jalen Brunson uniquement au sidekick de Luka Doncic. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand Luka Doncic n'était pas avec lui sur le terrain, l'attaque des Mavs fonctionnait aussi bien. Elle fonctionnait bien, elle fonctionnait presque aussi bien quand il n'était pas sur le terrain. Quand les deux étaient ensemble, ça fonctionnait du feu de Dieu. Quand Doncic n'était pas présent, ça fonctionnait aussi grâce à lui. Et du coup, c'est un joueur qui n'est pas simplement... c'est pas un joueur qui est juste un lieutenant lambda, je crois. C'est quelqu'un qui peut avoir de bonnes responsabilités, et on le voit. Cette saison, c'est 24% d'usage, de taux d'usage, pour à peu près... 1,17 points par tir tenté. Donc, c'est quelque chose qui est très, très haut, en fait, en termes d'efficacité pour un rôle de premier initiateur bis, entre guillemets. Alors, oui, il y a la notion de contexte qui va être différente, mais en gros, pour un joueur comme ça, qui peut être un bon titulaire à tout ce qui est initiation d'attaque, n'utiliser que 20% de ton salary cap, ben, au final, c'est pas scandaleux, en fait. C'est pas scandaleux. C'est juste que pour faire ça, dans le package pour te permettre de potentiellement le signer sur ce contrat-là, ben, t'as pas drafté, t'as utilisé tes picks de draft pour libérer le cap space et tout ça. Donc, c'est juste l'aspect package, en fait, pas uniquement, quand tu prends pas uniquement la signature et tu prends toutes les mouvements et les manipulations qu'il a dû falloir faire pour le signer à ce contrat-là, ça te revient à beaucoup plus cher que le contrat. Et c'est juste ça, en fait, que moi, que je critique, et pas la signature sur ce contrat-là pour un joueur qui, pour moi, hein, qui est un bon joueur, et que s'il est, demain, il était sur le marché, je pense que des gens proposeraient des tours de draft pour s'attacher ses services.
T'en penses quoi, toi, Elias? Est-ce que les Knicks sont pas... c'est une blague qu'on a souvent dans le podcast, mais depuis qu'on a débuté l'émission, les meneurs des Knicks, ça a été Elfrid Payton, ce qui restait de Kemba Walker, enfin ça n'a pas été brillant. Est-ce qu'ils n'ont pas solutionné ça, en fait? Franck Ntilikina aussi. Enfin, ça a été des années un peu sombres au niveau de la main d'Enix. Et encore, c'est pas forcément. On peut reculer avant le début du podcast. Est-ce qu'ils n'ont pas solutionné ça? Peut-être un peu cher, mais ils l'ont fait.
Ouais. Et après, disons que ce move, il a plusieurs dimensions. Déjà, il y a la symbolique de se dire que Jalen Brunson, c'est le premier joueur ayant signé un contrat à plus de 100 millions de dollars et qui n'a jamais été All-Star, le premier de l'histoire. C'est finalement que le quatrième Nick a signé un contrat au-delà des 100 millions de dollars avec le fameux Julius Randle, et avant ça, c'était évidemment Melo et Alan Houston. Et après, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un espèce de délit de sale gueule, et il y a aussi le fait de tout le temps vouloir se farcir les Knicks, parce que finalement, c'est quelque chose de commun maintenant quasiment que de se moquer d'eux. Mais honnêtement, moi, je trouve que sur le plan sportif, c'est un move intéressant, parce que j'aime bien l'idée de voir Jalen Brunson dans un système, comme l'a dit Tom, un peu moins héliocentré, parce qu'on a pu voir qu'une fois que Luka était pas là, notamment lors du premier tour face à Utah, qu'il avait eu quand même des pointes à 31 et 41 points, ce qui est pas anodin.
Forcément utiliser le 3 points, tu vois.
Absolument, bah c'est quelqu'un, je vais utiliser le terme, hein, c'est vraiment quelqu'un qui casse la gueule à ses vis-à-vis, hein, parce que on voit un petit peu le physique que c'est. Brunson, c'est pas quelqu'un de long, mais c'est quelqu'un de fort sur ses appuis, capable, voilà, de mettre l'épaule et d'enfoncer assez facilement ses vis-à-vis. On voit aussi que Dallas essayait d'utiliser un petit peu les match-ups les plus favorables pour pouvoir le mettre dans les bonnes conditions. Ça va être un partenaire de pick and roll idéal, et c'est aussi quelqu'un sur lequel tu peux compter en ISO, parce que voilà, je pense qu'il a capacité il a la capacité à faire la différence en un contre un. Après, moi, je peux comprendre en fait que Brunson ait été grassement payé parce que si l'idée initiale, c'est à chaque fois de garder les dollars des Knicks pour des joueurs de plus grande envergure, faudra juste me dire en fait à quand remonte la dernière signature de marque de la franchise. On se souvient du fameux Godsplan. Ouais, non mais il y a quelques années, ça consistait à drafter Zion avant de faire un all-in sur le duo Kyrie et KD. Donc faut se rendre à l'évidence.
Incroyable.
Bah bien sûr, faut se rendre à l'évidence. Les Knicks n'attirent plus les principaux free agents. Donc quand tu peux pas placer un max sur des joueurs du DH20, bah tu te rabats logiquement sur des joueurs moins forts. Mais pas forcément moins impactant, voilà, du deuxième chapeau. Et donc là, on est sur un contrat finalement à 26 millions de dollars la saison. Mais je pense que si Brunson il avait signé un deal de ce type-là dans une franchise, par exemple, comme les Hornets, qui vont voir cette année Terry Rozier aligner 21 millions de dollars sur la saison, je pense pas qu'on en parlerait autant.
Enfin, Alan de Santa Clara, j'ai dit qu'on allait l'appeler comme ça maintenant.
L'imposteur.
Le dit souvent, mais. le guard play, voilà. Bah, en l'occurrence, les jeunes joueurs d'Enix, parce qu'il y a quand même encore des jeunes joueurs Enix, ils n'ont jamais eu un tel joueur. Tu l'as notamment dit, il y a sur le pick and roll, je lisais la stat, il en joue à peu près 20 par match. Enfin, ils vont avoir enfin, et un vrai joueur de pick and roll, pas Elfrid Payton ou je ne sais pas qui. Donc, pour l'Enix, c'est vrai que je pense que là, on critique beaucoup ce mouvement, alors que Brunson va être quoi, le 15 ou 16e meneur le plus payé de la ligue. On peut dire que c'est un petit peu exagéré, mais si on enlève les mecs de leur contrat rookie, c'est pas délirant. Enfin, en vrai, c'est pas délirant pour stabiliser ton poste de meneur. Alors, comme l'a dit Tom, c'est peut-être un peu gênant d'avoir fait tout ça, mais ils ont trop besoin d'un meneur. Ça leur permettra aussi de peut-être mettre du RJ Barrett, pas en porteur de balle prioritaire, mais en initiateur un peu de bis. Enfin, bref, une situation qui pourrait plus le mettre en confiance, moins de responsabilité pour un Julius Randle. Enfin, bref, je trouve que c'est solide et c'est vrai. On nous l'a un peu reproché, donc il faut un peu le dire. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus totalement dénigrer ce qu'il y a autour de Luka Doncic. En l'occurrence, Brunson en saison régulière, ça a marché. Et je ne sais plus, je l'entendais où, mais il y a quand même, c'est quand même important d'être respecté par ses pairs. Et il y a ce sentiment, quand tu parles de Jalen Brunson, tous les joueurs NBA disent que c'est un mec super dur à défendre. Et comme quoi, bah, avoir ce respect de ses pairs, bah, ça fait bien longtemps que certains joueurs, les Knicks n'ont pas eu de ce genre de joueur. Donc, c'est une signature que peut sur le montant, sur les actions, peut-être que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ils ont enfin un vrai meneur. Et Brunson n'a pas 26 ans aussi. Hein. On n'a peut-être pas la dernière version de Jalen Brunson.
Après, c'est vrai que c'est un joueur qui a progressé en fait sur ses 4 saisons depuis qu'il est arrivé dans la ligue. C'est un joueur qui a toujours progressé saison après saison. C'est un joueur qui fait partie du gratin, notamment dans le jeu à mi-distance, encore plus à sa position. C'est quelque chose dont les Knicks auront vraiment besoin. C'est quelqu'un aussi qui est très fort sur tout ce qui est drive et attaque du panier, qui est très bon à la finition près du panier parce qu'il est toujours équilibré quand il va prendre ses tirs. C'est pas quelqu'un qui va prendre ce qu'on appelle des wild shots, c'est-à-dire sans un déséquilibre fuyant le panier. Il préfère limite poser son appui, faire un petit fadeaway bien équilibré pour après ajuster la mienne. Donc je pense que c'est un joueur propre. Alors pour moi, c'est pas un meneur au sens meneur gestionnaire, c'est plus un meneur percutant. Tibbs, il aime bien, enfin il sait comment utiliser ce type de meneur plutôt axé sur la génération d'attaques individuelles. Donc oui, ça peut marcher. Puis comme tu dis, ça peut offrir aussi des solutions différentes, notamment pour mettre un petit peu plus en valeur du coup RJ Barrett, faciliter un peu le travail de Julius Randle. Si Evan Fournier reste toujours là, lui aussi le mettre en bonne position. Après, là où j'ai un peu de doute, c'est que comme tu l'as dit Ben, le supporting cast qu'il y avait à Dallas et la façon dont Dallas avait à jouer, en termes de contexte, c'est totalement différent de ce qu'il va retrouver au Knicks. Là où à Dallas, il pouvait avoir de temps en temps un spacing maximum, là, avec les Knicks, c'est beaucoup plus compliqué, notamment même dans l'utilisation du dunker spot où tu as souvent Mitchell Robinson. Par exemple, Mitchell Robinson en carrière, c'est un joueur qui a pris 92% de ses tirs à moins 2 mètres du panier. Donc, c'est en carrière, c'est quelqu'un qui a pris 92% de ses tirs en carrière à moins 2 mètres du panier. Donc, toutes ces choses-là. Alors oui, ok sur le pick and roll, ok tout ça, mais peut-être que en termes d'espace et de création de séparation, ce sera d'un point de vue contextuel beaucoup plus difficile à faire pour lui Onyx, puisqu'il ce sera le premier ball handler tout simplement.
C'est vrai que toutes ces séquences, on voit Ali Bronson dos au panier dans les séries de playoffs ou même en saison régulière, enfoncer son vis-à-vis, et c'est là où il est difficile à défendre, parce qu'il a beau être un peu plus petit, il est trapu, et il a des très bons, vous l'avez dit, hein, il a des très bons mouvements dos au panier. Visiblement, du côté des Knicks, il y aura toujours un joueur, Tom l'a dit, au dunker spot, donc ça risque d'être un peu compliqué. Après, Elias, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense que je vais pas appeler ça un bénéfice du doute, pas vraiment. Mais c'est trop important d'avoir un bon meneur NBA. Les Knicks l'ont fait. Bah, on attend de voir quoi. Après, se pose peut-être la question. C'est une équipe qui commence à coûter très cher et qui reste une équipe qui devrait se battre pour le play-in quoi, en l'état.
Je pense que cette équipe et cette franchise, elle pourra véritablement commencer à ambitionner quelque chose. Quand elle arrivera par exemple à se défaire d'un joueur selon moi comme Randle, j'arrive pas en fait à imaginer Julius Randle matché avec les qualités ou en tout cas ce que Thibodeau voudrait faire de joueurs comme Barrett et comme Brunson. Je préfère l'idée de l'avoir loin de New York, en tout cas si j'étais fan des Knicks. Voilà, je préfère en fait cette version où enfin tu vas pouvoir confier la balle à quelqu'un de fiable dans la création ou dans la capacité à scorer. Finalement, ça va aussi peut-être décharger aussi RJ Barrett de certaines responsabilités qui étaient peut-être un petit peu trop grandes. Il va pouvoir mettre en évidence ce qui m'a beaucoup plu chez lui l'année dernière en ce qui concerne sa défense. Je pense que c'est important que chacun puisse définir un rôle de manière précise pour des joueurs, par exemple, comme Evan Fournier.
Cam Reddish.
Comme Cam Reddish, s'il est encore là. Mais en fait, c'est vrai que moi, je pense que Brunson vient peut-être légèrement élever ton plancher. Mais par contre, te donne pas forcément les perspectives que tu ambitionnerais quand tu es à New York. Et autre chose, c'est que le supporting cast est beaucoup trop court en fait. Tu sais pas trop sur qui t'appuyer derrière ces joueurs. Mais après, est-ce que c'est véritablement un problème pour une équipe coachée par Thibodeau, sachant que on sait d'avance qu'il va jouer plus de 40 minutes. C'est pour ça que la NBA est pas très regardante à ce niveau-là, au niveau de ses trophées, ou que ce soit pour des distinctions All-Star, ou que ce soit pour accorder un titre de MIP. Faudrait, je pense, surveiller Brunson, parce que on va commencer à pondérer tout ça. Il va avoir plus de ballons, moins de Luka, plus de minutes. Est-ce que finalement, quand tu vas commencer à imbriquer tout cela, c'est pas quelqu'un qui, en tout cas, au moins sur le plan des chiffres, va venir justifier le salaire qu'il vient de signer? Moi, ça, c'est une de mes curiosités. Et j'ai vraiment envie de voir Brunson l'année prochaine.
Après, il y a d'autres jeunes joueurs aussi chez les Knicks. C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'ils sont moins tête d'affiche, mais ils semblent tenir à Emmanuel Quickley. Topin a fait une fin de saison plutôt correcte, hein. Donc il y a quand même des jeunes et des motifs d'espoir. Moi, le seul point négatif que je vois en fait à la signature de Brunson, c'est-à-dire que tant que tu as Brunson dans ton équipe, ça doit être le plus petit joueur de ton 5 majeur. Et du coup, là tu es obligé d'aller chercher un grand autre, si tu veux un autre porteur de balle, il te faut un gars qui soit plus grand. Si par exemple, on parle beaucoup de ce qui pourrait peut-être arriver avec s'il y a une implosion avec Donovan Mitchell, le fit devient beaucoup moins logique en fait de Donovan Mitchell, Jalen Brunson, que si Brunson n'était pas là. Pour moi, c'est la seule limite que ça met, c'est vraiment dans la construction de ton équipe. Si tu veux qu'il fasse partie de ton 5 majeur, faut que ce soit le plus petit joueur. Et quand tu vois en gros les qualités qui manquent à cet effectif là, ben si tu veux un joueur de grande taille qui a toutes les qualités de ball handler, de ball handling, de gestion d'équipe et le step back et tout ça, ben en fait tu vas très vite dans des profils qui sont soit inexistants, soit qui sont verrouillés du côté de leur franchise, ou des profils qui seront jamais disponibles sur le marché.
Et autre chose, Tom, t'avais mentionné tout à l'heure le supporting cast qui n'était pas forcément le sien, mais en tout cas les joueurs environnants à la présence de Brunson à Dallas. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas les Finney Smith Jr. ou les Reggie Bullock à New York.
Oh, bah, t'as Cameridge, et... Ilias, voyons.
Donc moi, j'ai évidemment, voilà, il y a d'autres joueurs, mais j'ai pas l'impression que ces joueurs-là correspondent en fait avec les qualités, au moins à la passe d'un joueur comme Brunson. Il va scorer, ça c'est une évidence, parce que de toute façon les Knicks en auront besoin. Mais en ce qui concerne la création pour les autres, et notamment le drive and kick, bon, évidemment, Fournier, il peut être fiable à ce niveau-là. Si l'idée, c'est de faire de Fournier uniquement un catch and shooter, je pense que c'est très bien. Mais il va nous manquer d'autres joueurs un petit peu de, au moins de ce profil. Pas forcément, je parle pas forcément de talent comme celui de Finney-Smith et d'autres joueurs, mais au moins des joueurs de ce profil-là.
Moi, je trouve que Tom, t'as cité les jeunes joueurs. Ça va surtout arrêter la propagande Emmanuel Quickly meneur titulaire, ce qui est aussi une bonne chose pour tout le monde, parce que on est d'accord qu'on l'avait déjà dit, hein, quand on avait fait un épisode sur Enix, c'est plus un profil de joueur. À l'heure actuelle, dans sa progression, dans l'état actuel de Emmanuel Quickly en 2022, c'est plutôt un joueur qui doit rester sur le banc. On peut terminer, en parlant du fait qu'il ne se passe rien. Alors, ça paraît un petit peu bizarre de terminer comme ça, mais on voit bien, les gars, en ce moment, que bah, depuis qu'on a parlé la semaine dernière, épisode où Ilias, tu nous as dit que t'aurais aimé être là, il se fait tard, il ne se passe rien. Donc, on voit bien que la NBA, et on a des propos d'agents qui commencent à sortir, qui expliquent que pourquoi je vais faire signer mon joueur qui est un role-player, sachant que des minutes pourraient être disponibles dans des bonnes situations rapidement. Le marché est bloqué à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que vous avez à dire sur un non-événement, parce que ce n'est pas très podcastique. Bref, mais qu'est-ce qu'on dit actuellement, parce qu'il ne s'est rien passé depuis notre dernier épisode.
Ben, le marché est bloqué à cause de deux choses. La première chose, c'est Kevin Durant. Vu que tout le monde prépare les packages, mais tu as pas mal de deals qui restent en suspens, en fait. Enfin, tu as pas mal parce que des deals de cette magnitude-là, je pense qu'il y a moyen que deux, trois équipes viennent se greffer au deal. Donc, du coup, ça bloque un peu la situation. Autre chose qui peut bloquer la situation, c'est que là, les rookies viennent de signer leur contrat. T'as pas mal de rookies qui ont signé leur contrat. Et du coup, ils peuvent pas être transférés ni d'être mis dans des échanges pendant 30 jours. Donc, ça aussi, ça bloque la situation. Et après, il faut se rappeler que il y a pas que le cas Kevin Durant. Il y a qu'est-ce qui va se passer, du coup, avec DeAndre Ayton. Lui, on l'a oublié, Colin Sexton, on l'a oublié, ces gars-là, on les a oubliés, parce que tu vois, ce sont des gars qui sont agents libres restreints, qui sont bloqués, t'as eu l'affaire Bridges dont on a parlé, donc on va pas encore en parler, donc du coup, le marché actuellement, il est bloqué tout simplement parce qu'il n'y a aucune clarté sur ce qui va se passer une fois que Kevin Durant aura bougé, et là, la seule chose qui reste en suspens en dehors de ça, c'est le contrat de James Harden. Qu'est-ce qui va se passer avec James Harden? Parce que il y a des choses qui ont été annoncées, mais il n'y a pas encore de reporting officiel sur, OK, il signe pour temps, pendant combien de temps? Là, on est au stade des discussions. Il y a des choses qui ont été évoquées, mais il n'y a rien de clair qui est sorti.
Quelque chose à rajouter, Ilias? C'est vrai que là, actuellement, on est en période date. Tom, tu l'as dit, DeAndre Ayton reste quand même alors c'est du pedigree, mais un premier choix de draft qui n'est pas un bust, qui a un jeune pivot qui a progressé d'année en année, qui tournait à 17-10 cette année. Rien, morne pleine, on n'entend rien. Alors, on a eu des pseudo-rumeurs à Indiana un moment, enfin, on n'entend rien du tout. Sexton, Tom, c'est vrai que j'ai eu un micro-sieste, j'avais presque oublié qu'il était free agent restreint. Il se passe rien, Ilias, en ce moment. Donc, on attend. Et moi, ma question, c'est, on va attendre 30 jours comme ça, peut-être?
Ayton, il a surtout été énormément mentionné du côté de Détroit. Mais en tout cas, entre le move de Jeremy Grant, entre tout ce qu'a pu articuler Troy Weaver avant la draft et pendant le soir de la draft, ne me donne pas l'impression qu'on va dans le sens de la signature d'un joueur comme Ayton. Et avant cela, et avant évidemment le drame évoqué la semaine dernière, un joueur comme Miles Bridges. Je pense qu'il y a l'idée, en tout cas à Détroit, et peut-être aussi à Indiana, tu sais, des franchises capables de pouvoir donner l'argent que souhaiterait un joueur comme Ayton. Il y a l'idée de peut-être pas forcément brûler les étapes. Et est-ce que finalement, ce serait judicieux, quand tu as du cap space Et sachant que nous, tu vois, on a préféré absorber des contrats expirants l'année prochaine avec des team options comme celle de Nerlens Noël et d'Alec Burtz, voilà, plutôt que finalement de venir mettre dans les pattes, non pas forcément de joueurs comme Stewart ou comme Duren qui serait au poste de Ayton, mais il y a aussi le usage, il y a aussi la capacité d'utilisation du ballon et de la manière dont tu vas orchestrer tes différents systèmes. Est-ce que finalement l'idée c'est pas de te contenter du contexte actuel qui est de faire progresser les joueurs que tu as draftés, que de surpayer un joueur qui finalement ne va pas te donner la valeur ajoutée ou en tout cas ce que tu considérerais comme le chaînon manquant à ton projet. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fige, c'est plus en fait le profil et le poste de Ayton. Aujourd'hui, enfin on l'a maintes et maintes fois répété dans le podcast. Aujourd'hui, c'est plus le genre de joueur et le type de profil sur lequel tu mises un contrat max comme l'espérerait ce genre de joueur, parce que des joueurs il aurait fallu que au moins comme Rudy Gobert, il soit élite dans un secteur, ce qu'il n'est pas en fait, parce que sinon les autres pivots au max de la ligue, c'est Joel Embiid, c'est Nikola Jokic, c'est Karl-Anthony Towns, c'est des joueurs quand même qui proposent des profils voilà, bien supérieur à celui de Ayton. Je pense que ça, en tout cas, ça fige sa situation à lui. Et après, on peut aussi mettre en corrélation l'immobilisme autour de Kevin Durant par le fait que Phoenix soit évidemment sur le dossier. Mais est-ce que maintenant, tu vas pouvoir contenter une équipe des Nets avec les packages que tu as commencé à monter? Il y a une dernière petite chose, les gars. Beaucoup de gens mettent... ce que devraient finalement lâcher les franchises pour Kevin Durant à la lumière de ce qui a été lâché pour obtenir Rudy Gobert. Mais il y a peut-être une notion qu'on n'a peut-être pas considérée, c'est est-ce qu'il n'existe pas finalement une limite dans l'offre?
Bah oui.
Que là, le problème, c'est que je veux bien que les franchises veuillent se payer 4 années de Kevin Durant, mais c'est quoi finalement le package que tu peux proposer sans finalement... parce qu'en plus, il y a la notion de contenter Kevin Durant qui pourrait arriver, parce que si maintenant l'idée c'est d'arriver aux Raptors qui n'ont plus de bons joueurs avec qui Kevin Durant va jouer, bah Kevin Durant l'été d'après il réitère sa demande de trade et on est reparti pour un nouveau scénario. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fige le marché.
Puis je crois que c'est David Aldridge qui l'a sorti, il faudrait revérifier. D'après les rumeurs anonymes, sources anonymes, on aurait dit aux Nets, les Timberwolves ont surpayé. Enfin, ne prenez pas ça proportionnellement, on ne va pas donner 6 fois plus. Parce que Kevin Durant, tu vois, de manière totalement théorique, ce n'est pas parce que Kevin Durant est 6 fois plus fort qu'on va vous donner 6 fois ça. Parce que, en fait, ils ont surpayé. Et c'est vrai, comme l'a dit Ilias, il faut aussi peut-être garder en tête que. Même pour un mec comme Ayton, du coup, c'est l'immobilisme, parce que ces franchises-là qui sont en reconstruction, elles sont toujours à la recherche de deals dans lesquels elles peuvent s'incorporer pour gagner une petite pièce et peut-être être un facilitateur. Bah là, si tu te dis qu'il y a un deal XXL qui se prépare, tu veux garder toutes tes pièces. On se rappelle bien du deal de James Harden, du coup, à Brooklyn. On avait souligné, tu vois, il y avait des équipes qui s'étaient accrochées. Du coup, on était terminé par un deal à 4.
Donc c'est ça, ouais. Et puis t'as l'autre problématique toujours par rapport à DeAndre Ayton, c'est que une équipe qui pourrait être intéressée par ces services qui a été mentionné, c'était Indiana. Indiana, de son côté, elle a aussi le dossier Miles Turner aussi à gérer. Les dossiers Miles Turner, Buddy Hield, des gars comme ça qui ne semblent plus entre guillemets faire partie des projets, et eux doivent vendre entre guillemets pour pouvoir acheter, quoi. Puisque si tu fais une offer sheet pour DeAndre Ayton, il faut que tu aies la place aussi. Non seulement il faut que tu aies la place dans ton salaire, enfin dans ton salary cap, pour pouvoir signer l'offer sheet, mais il faut que tu aies de la place en termes de temps de jeu, en termes de ressources investies. Alors que Indiana, au poste de pivot, sur les 3-4 dernières années, ils ont quand même bien investi. Ils avaient la paire, du coup, Sabonis Turner. Ils ont drafté Bitadze. Ils ont Jalen Smith, qu'ils avaient récupéré dans l'échange pour Torrey Craig. Ils ont Isaiah Jackson aussi au poste de pivot. Donc ça commence à faire beaucoup de monde. Ça commence à faire beaucoup de monde sur ce poste de pivot là, quoi.
Sachant qu'en plus, on l'a dit, et là, c'est là où on peut remettre ça en perspective avec Miles Turner, DeAndre Ayton, il y a ce paradoxe où il souhaite un rôle plus grand alors qu'on le paye pour avoir le même rôle qu'à Phoenix. En fait, ce qu'on avait souvent dit avec Miles Turner veut être un autre joueur, mais en fait, si quelqu'un acquiert Miles Turner, c'est pour qu'il soit la même personne, globalement. Donc, il y a un peu ce problème-là aussi qui peut se rajouter. C'était censé être court, on en est bientôt à une heure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars?
Peut-être le domino Kyrie qui va bientôt tomber. Après, celui-ci, il est beaucoup moins impactant que celui de KD, évidemment, mais il est surtout plus facile à faire bouger, ce pion-là. Je pense que dès l'instant où les Lakers seront enclins à céder un ou deux tours, enfin, en tout cas, un ou deux tours de draft, je pense que le deal sera emballé, sera pesé.
Ouais, celui-ci, il semble un peu... Ceci semble pointer le bout de son nez parce qu'en
il y a un joueur,
il y a une équipe qui semble prête, donc on semble s'y diriger.
C'est simple, Ben. À cas désespéré, mesure désespérée. En fait, il y a que les Lakers qui peuvent se positionner pour Kyrie parce que dans leur esprit, l'idée de repartir sur une saison de plus avec Russell Westbrook, c'est pire que d'avoir à gérer et à supporter Kyrie, je pense.
Mais en vrai, Ben, tu vois, j'y réfléchissais quand t'as demandé la comparaison par rapport à Kyrie, en fait. La vision qu'on a de Kyrie de 2016, la vision qu'on a de Kyrie, en fait, aujourd'hui, quand tu vois ce qui s'est passé entre 2016 et maintenant. Et en fait, la seule chose qui, pour moi, fait analogie, alors c'est pas du tout, c'est de la fiction, hein. C'est, en fait, Kyrie 2016, c'est Gohan qui bat celle à une main. Et Kyrie, aujourd'hui, là, c'est l'espèce de professeur, là, donc personne ne
le
veut
prof pour de combattre. Maths.
Voilà, c'est ça.
Alors, je l'ai pas. Je suis désolé, je l'ai pas.
Alors, moi, je l'ai. Et en tout cas, je pense que nos auditeurs fans de Dragon Ball Z comprendront parfaitement l'analogie de Tom.
Je savais qu'on parlait de Dragon Ball Z, mais je t'avoue, Tom, je suis obligé d'être honnête avec toi, avec le public, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais je pense qu'elle est inspirée, vu comment rigole il y a, je pense qu'elle est inspirée. Mais...
Je pense qu'on peut pas
comment
mieux
comment tu
conclure,
passes de ça à ça, tu
c'est
vois
parfait. Ouais. Mais je pense que Kyrie bientôt ce sera un sujet de mémoire, un sujet de c'est en fait Kyrie, il a beau être ce qu'il est, je pense que c'est un des personnages les plus fascinants et pas forcément dans le bon sens du terme de ces dernières années en NBA. C'est incroyable. Ce mec là, il y a trop de choses à dire et à raconter sur ce type là en fait.
Honnêtement, je l'avais déjà dit à Alan de Santa Clara il y a quelques années, je crois, on me donne budget limité pour ce podcast, je fais un podcast annexe avec Kyrie où pendant une heure je lui donne la parole, il fait ce qu'il veut, il a qui il veut, bon, dans la mesure dans la quand même, je lui demanderai un droit de regard quand même, parce que ça pourrait être chelou des fois, et je le laisse parler. Je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire
absolument
pour l'environnement basket mondial. Du coup, on va conclure là-dessus, les gars. Beaucoup, n'hésitez pas à réagir, du coup, le concept de loyauté, etc. Bradley Beal, no trade clause, comme des Hall of Famer. Bradley Beal n'a fait qu'une All-NBA Third Team. Que se passe-t-il? On ne sait pas tout. Enfin voilà, on vous invite du coup à réagir par rapport à ça, à nous suivre sur Twitter, à nous noter sur les plateformes de podcast. Et puis nous, on va vous souhaiter une bonne semaine. Buvez beaucoup d'eau, parce qu'il va faire très chaud apparemment. Et puis passez une excellente semaine. Salut!
Salut à tous!
Salut!
Hey, Phoenix, tired of battling the mighty pollen? We've got your back. Aspire Allergy and Sinus offers lasting allergy relief so you can chuck those temporary fixes and savor that sweet, sweet taste of victory over pollen. With same-day results and tailor-made treatment plans, we've turned the tables on allergies. Aspire patients enjoy relief that lasts for years. Schedule your appointment today at AspireAllergy.com. Turn your daily sneeze-a-thon into a breeze with Aspire Allergy and Sinus. Go to AspireAllergy.com.